mots et expressions québécoises. Alors, André, allez-y avec l'origine de quelques mots.
Alors, je voudrais d'abord mentionner que le dictionnaire historique du français québécois m'a été vraiment utile pour rédiger cette chronique, et aussi le site internet tlfq.org, Trésor de la langue française au Québec. On débute avec le mot liqueur.
Prendrais-tu une bonne liqueur?
Une bonne liqueur.
Avec des chips.
Avec des chips. Vous allez voir d'où ça vient, ça, ce sens de liqueur qui est très québécois. On peut dire que dans l'usage courant au Québec et en France, liqueur, c'est un alcool sucré. On dirait un digestif aussi au Québec. Je ne suis pas sûr que les Français diraient ça. Hein, comme une bonne crème de menthe.
Blanche ou verte?
Non, verte. Verte.
Oui.
Autrefois, cependant, liqueur, ben, ça désignait toute boisson alcoolique, parfois à l'exclusion du vin et de la bière, d'où l'appellation de l'ancêtre de la SEQ, la Commission des liqueurs.
Oui.
Hein, mon père disait ça. Alors ça a eu lieu entre 1921 et 1961, la Commission des liqueurs, qui est devenue la Régie des alcools après, bien sûr. Au 19e siècle, une nouvelle expression donc apparaît dans le vocabulaire québécois où on parle de liqueur de tempérance.
Ah.
Ouais. Pour parler, et là je vous cite la définition, d'une boisson avec peu ou pas d'alcool, souvent sucrée et aromatisée, considérée comme stimulante, bénéfique ou réconfortante et vendue comme substitut aux boissons enivrantes. Voilà.
C'est pas une liqueur fine.
Non, ce n'est pas une liqueur fine, d'où l'emploi subséquent du mot liqueur justement pour désigner la famille des boissons gazeuses comme le cola, le ginger ale, etc.
Un autre mot qui me fait rire, champlure.
Ou champleur.
Oui.
Ouais, les deux se disent. Hein? C'est attesté au Québec ce mot-là depuis la moitié du 17e siècle à peu près, et ça a été remplacé peu à peu par robinet. Mais à l'origine, la champlure ou la champleur, ça désignait un robinet fixé à un tonneau pour faire couler le vin. Et ces deux formes-là sont des variations du mot « chantepleur » qui est apparu en France au 16e siècle et dans lequel on reconnaît les verbes « chanter » et « pleurer » justement pour évoquer le bruit et l'aspect du vin qui coule.
Oh,
c'est poétique. Hein?
Oui, il ne faut pas perdre ces mots-là.
Non.
Il ne faut pas s'épivarder.
« Chantepleur », non, s'épivarder. Ça en était un autre que j'aime beaucoup, ça. S'épivarder, on le voit beaucoup pour dire « s'amuser » ou même « lâcher son fou », c'est encore mieux. Mais ça nous vient là aussi des provinces de l'ouest de la France. Ça a été formé à partir du mot « pivard », qui est une variante phonétique de « pivert », qui est désigné anciennement le pivert d'Europe. Et de « pivard » est né le verbe « se pivarder », pardon, lequel est devenu ensuite « s'épivarder ». Alors, c'était quoi le sens original de ce verbe-là? Eh bien, dans l'ouest de la France, « s'épivarder », ça signifiait et ça signifie toujours « faire sa toilette » en parlant des oiseaux. S'épivarder.
Charmant.
C'est charmant, hein? Ça existe de façon similaire au Québec depuis la fin du 19e pour décrire justement l'action chez des oiseaux, surtout des poules, de se nettoyer les plumes avec le bec, s'ébrouer dans l'eau, se rouler dans la poussière. Et par extension, on l'emploie à propos d'autres animaux pour désigner le fait de s'ébrouer, de s'activer, de gambader. Donc, s'épivarder.
Eh bien, ça a plusieurs sens, finalement.
Oui, oui. Ataka. Aimez-vous ça, les atakas, Hélène?
Oui, surtout dans le temps des fêtes. Surtout à l'Action de grâce aussi.
À l'Action de grâce, oui. Ça s'en vient, ça. Un mot qui nous vient de la langue Wendat, donc la langue parlée par les Hurons. Et les noms d'origine, c'était soit Atoxa ou Toka, transformé en Ataka par les colons français. Progressivement, c'est le mot canneberge qui s'est imposé au Québec, mais Ataka est toujours resté quand même.
As-tu ça, des atakas?
Des atakas en canne. En passant, l'Ataka, donc, c'est aussi l'airel des marais. C'est plus son nom scientifique, l'airel des marais. Et c'est un fruit originaire d'Amérique du Nord et qui était déjà largement utilisé par les peuples autochtones depuis très longtemps. Quant à l'étymologie de canneberge, ça proviendrait d'un mot, d'une adaptation française du mot anglais cranberry, et qui lui-même provient d'un ancien mot allemand, Kranbier. Un mot qui signifie littéralement « baie de grue », la grue l'oiseau, en raison de la forme de la fleur qui ressemble à la tête et au bec d'une grue.
Voilà. Et qu'on en apprend des
on
choses.
On apprend des choses, hein? Hélène, je ne veux pas vous décourager, mais dans 3 mois, ce sera le 23 décembre.
Déjà?
N'est-ce pas? Alors, pourquoi pas vous parler de mon prochain mot, la guignolée. Plusieurs hypothèses circulent quant à l'origine de la guignolée, du mot et de la guignolée elle-même. Il faut presque remonter dans la nuit des temps pour la plus plausible, je dirais. Alors, à chaque nouvelle année, lors de la cueillette du gui sur les chênes des forêts sacrées, les druides gaulois utilisaient un cri de réjouissance qui voulait dire « au gui l'an neuf ». Et selon les dialectes, les termes « aguilanleu », « guyané » ou « guilanleu » étaient utilisés. Et au fil des transformations de la langue, c'est devenu le mot « guignolé ».
Et non guilon, guilon là,
guileluron.
Guileluron.
Non, ça c'est autre chose. Voilà.
Ici, Bobette.
Babette, toujours employé au pluriel. Hein. C'est apparu dans le vocabulaire de la mode durant les années 1920, d'abord pour référer aux jeunes femmes qui portent les cheveux courts, on disait à la garçonne à l'époque, puis au type de culotte qu'elles portaient. Et c'est passé de mode.
Et de genre,
sans jeu
de
mots. Oui, et c'est revenu, ça, dans le vocabulaire dans les années 70 pour parler, comme encore aujourd'hui, de façon familière, des sous-vêtements, aussi bien féminins que masculins.
OK, je pensais que c'était plus masculin.
Non, on dit bobette ouais. aussi pour une femme.
Et on dit bidou pour tout le monde aussi.
On dit bidou au pluriel, là aussi. Ça nous vient d'une ancienne monnaie utilisée en France autour du 15e siècle qui s'appelait le bidet. Rien, ah. à voir, rien à voir avec l'appareil
Mais non.
pour se nettoyer. Bidou au singulier, hein, c'est plus bidou la loge, mais bon.
Ah, c'est un personnage.
Ça, c'est
hein?
un personnage des belles histoires des pays d'en haut. Il faudrait savoir pourquoi on l'appelait bidou. Ça, c'est un autre paire de manches, je ne sais pas.
Ben, ça n'avait pas un lien avec le fait qu'il soit un gros joueur?
Oui, oui. Il semblerait que c'était un gros joueur.
Il aimait peut-être. L'argent, il aimait les bidous.
Il aimait les bidous comme Séraphin, mais je pense que lui, il dépensait plus.
Et puis, on y va avec quelques expressions maintenant,
ouais,
André.
Oui, oui. S'en ficher comme l'an 40.
Oui, ça vient d'où, ça?
1740, pas 1940. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé en 1740? Bien, il y a des gens qui auraient commencé à répandre une nouvelle à l'effet qu'il y a des événements terribles qui se produiraient cette année-là. C'est arrivé souvent, ça, dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, la prédiction s'est avérée tout à fait fausse.
Comme nous avec l'an 2000.
Exactement.
Le bug de 1740.
Le bug de 1740. Et c'est pour rire des personnes qui s'étaient agitées inutilement que les colons de l'époque ont créé la fameuse expression « on s'en fiche comme l'an 40 ».
Ah, qu'on utilise encore aujourd'hui.
Qu'on utilise encore, c'est resté.
Un temps de cochon.
Un temps de cochon. Je trouvais ça très curieux. Alors, lorsqu'on tuait un porc autrefois, une des méthodes de conservation, c'était la mise au saloir. C'était la plus connue. Puis pour favoriser la prise de sel, ça prenait idéalement un temps froid et humide. Donc, on tuait le porc tard l'automne par un temps de
cochon.
Voilà, des belles pluies froides de fin novembre. Là. C'était idéal. Temps de cochon. Ne pas être dans son assiette. Ça, c'est avant l'invention de la vaisselle plate qui a eu lieu à peu près début 16e. Ça référait strictement à la position d'une personne à ce moment-là, le mot « assiette », à sa manière d'être posée. On emploie encore ce sens-là aujourd'hui pour parler de l'assiette d'un cavalier sur la selle de son cheval ou par extension de l'assiette d'un avion en vol. Donc, ne pas être dans son assiette, c'est être mal placé au sens figuré. Nos cousins français disent être à côté de ses pompes. Vous avez déjà entendu ça? C'est un peu le même sens, là, d'être... Voilà. Pas être dedans.
OK. Parce ouais. que souvent, on dit « j'étais pas dans mon assiette ». C'est plus une question
pas.
De « ouais, c'est ça, j'étais pas bien ».
Oui, c'est ça. On sent, ouais,
j'avais
c'est,
des problèmes gastriques ou
ça devient physique. Ça devient physique. On se sent un peu ouais. croche, un peu à côté de la plaque.
Voilà. À côté de ses pompes, justement, comme disent pompes. Les cousins français.
Tout à fait.
Il en reste deux expressions, André.
Être dadon. Ça, j'aime ça.
Oui.
Ça vient de Charlevoix puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le mot « adon » à l'origine, ça provient des parlers du nord et de l'ouest de la France. Employé seul, « adon », c'est le hasard ou la coïncidence. Et dans le cas présent, être d'adon, ça peut vouloir dire deux choses. Soit pour parler de ce qui est approprié et opportun, donc quelque chose qui est ou qui n'est pas d'adon, ou pour décrire une personne qui s'entend facilement avec autrui, qui est d'un abord facile, aimable, serviable.
Comme nous.
D'un commerce agréable. Uh-huh. Moi, j'aimais ça aussi, d'un oui. commerce agréable.
Il est, comme oui, lui. Elle est de commerce agréable.
Voilà. Et en terminant, mettre au pied du mur. Mettre au pied du mur est une expression qui nous vient de l'escrime, où celui qui a poussé son adversaire jusqu'au pied du mur lui a enlevé tout moyen de reculer, de sorte qu'il soit obligé soit d'abdiquer ou de riposter, mettre au pied du mur.
Ça vient de l'escrime.
Ça vient de l'escrime.
Bien, nous voilà plus instruits grâce à vous. Merci beaucoup, André Lacombe. On va se retrouver quelque part au mois d'octobre.
Oui, voilà.
Portez-vous bien.
À bientôt.